الحديث إن شاء الله وتوكل على الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 49 dans l'explication d'Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat al-Ashab al-Jahim, écrit par le Cheikh Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé à la suite des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'explication des divers versets ou des nombreux versets qu'il a cités au passage numéro 185 à la page 347 du volume 1. Donc on est aujourd'hui à la page 350, le passage 186, le passage suivant. Il explique donc le verset de Sourate Al-An'am, le verset 159. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ce qui signifie: ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Et c'est cette partie-là en particulier que Cheikh l'Islam explique. Il dit: وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلها في كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète alayhi salatu wassalam: tu n'as rien à voir avec eux, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Et donc ça implique quoi? Qu'ils se désavouent d'eux dans toutes leurs affaires et dans toutes les choses. Et celui qui a suivi autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines de ses affaires, alors il est de lui. Il a quelque chose de lui. Il le suit dans cette chose dans laquelle il a contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme par exemple lorsqu'on dit: je suis d'un tel et celui-là est de moi. Ou: je suis de cette catégorie-là ou de cette sorte et il est de ma sorte. Et donc, il dit: لأن الشخصين لا يتحداني إلا بالنوع. Donc on ne peut pas dire que deux personnes sont unies ou ensemble, excepté si on parle de, d'une sorte ou de quelque chose, hein, en particulier dans lequel ils se ressemblent, qu'ils sont réunis. Et donc, il dit par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ba'dukum min ba'd » vous êtes les uns des autres. Ou à qawluhu li Ali, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali « Tu es de moi et je suis de toi » comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Et il dit « Lorsque quelqu'un dit « je ne suis pas de toi » ou « je ne suis pas de cette personne en quoi que ce soit », c'est-à-dire « je ne partage rien de ce qu'il a, hein, je n'ai rien en commun avec cette personne. Plutôt, je me désavoue de cette personne dans toutes ses affaires. » Parce que deux personnes différentes qui sont en divergence l'une avec l'autre sur tous les aspects de leur religion respective, ça veut dire qu'elles sont totalement différentes, elles ont rien en commun, et plus que tu ressembles à un des deux, plus que tu contredis l'autre, parce que les deux sont complètement séparés. Et Cheikh Al-Fawzan il va expliquer cette parole de Cheikh Al-Islam avec plus de détails puis plus de clarté, inshallah. Donc il dit: لست منهم في شيء يقتضي تبرؤه منهم في الأشياء في جميع الأشياء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم في كل شيء وقد جاءت كلمة شيء نكرة في سياق النفي فهي تعم كل شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الكفار في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ومن ذلك كونهم متفرقين في دينهم فليتفطن هذا أصحاب النحل الباطلة والفرق الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقا منحرفة ومتفرقة والإسلام ولله الحمد ليس فيه تفرق ولا في أي جزئية من جزئياته وإنما هو دين واحد وأمة الإسلام أمة واحدة. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit tu n'as rien à voir avec elle ou avec ces gens-là, il y en a ceux qui se divisent dans la religion et qui sont devenus des sectes, ça implique qu'ils se désavouent d'eux dans toute chose, hein, ça c'est la parole de Cheikh Al-Islam. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se désavoue d'eux dans tout ce qui a rapport avec leur division et leur divergence et leur secte. Et le fait que on dit dans le verset lesta minhum fi shay'in, shay ça veut dire comme le cheikh dit nakira, c'est une parole ou un mot indéfini, une chose quelconque, c'est indéfini, on ne parle pas de quelle chose, tu n'es pas avec eux ou tu n'es pas d'eux en quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire quoi que ce soit, ça veut dire peu importe la divergence, peu importe la secte, tu n'as rien à voir avec eux en quoi que ce soit. Lesta minhum fi shay. Fi shay, ça veut dire quoi que ce soit, peu importe la chose, tu n'es pas avec eux. Et donc, le fait que ce soit indéfini et que ce soit une négation, donc ça implique que c'est général. Hein? Ça, c'est souvent, tu entends ça dans les paroles des ulama, ça fait partie des règles qui ont rapport avec qu'est-ce que tu lis dans les livres de Usul al-Fiqh. Quand quelque chose est nakira fi siyaq an-nafi, donc les ulama ils disent fahiya ta'ummu kull shay, hein, que c'est général. Donc ça implique tout, hein. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se désavoue des kuffars dans toutes leurs affaires et dans tous leurs états et dans toutes leurs situations. Et par exemple, du fait que, parmi les choses dont ils se désavouent, c'est le fait qu'ils soient divisés dans leur religion. Le fait qu'ils soient divisés dans leur religion. Ça, c'est quelque chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue. C'est-à-dire, ils sont divisés dans leur religion, ils se divisent. C'est-à-dire, ils se divisent à propos de leur religion. C'est ça. Non. Exactement. Les chrétiens, par exemple, tu vas trouver, par exemple, il y a les grandes branches catholiques, protestants, orthodoxes. Après, tu trouves par exemple parmi les protestants, tu vas trouver un protestant anglicain, tu vas trouver baptiste, méthodiste, pentecôtiste, évangéliste, témoin de Jéhovah, yani mormon, donc il y a toutes sortes. D'accord? Tout ça, seulement avec les protestants. Après, parmi les catholiques, il y a différentes branches aussi. Parmi les orthodoxes, différentes branches. Donc, ils sont tous divisés en sectes. D'accord? Bon, la franc-maçonnerie, c'est pas vraiment une secte, si tu veux, parce que c'est un mélange de toutes sortes de choses. Mais par contre, il y a toutes sortes de, disons, ils sont divisés dans leur religion. Tu vois? Et la même chose chez les juifs. Chez les juifs, il y a la même chose. Il y a toutes sortes de sectes. Les Hassidim, en tout cas. Il y a toutes sortes de sectes qu'on ne connaît pas. Puis moi, je ne connais pas les détails des sectes juives, mais je sais qu'il y en a plein. Et il y en a peut-être même plus que des sectes chrétiennes. Non, parce que quand on est à l'extérieur, tu vois, on ne connaît pas vraiment les juifs, de comment ils sont réellement dans leurs croyances religieuses et dans leur divinité. Mais il y a un groupe de juifs qu'on appelle les modernes, c'est comme les modernistes, hein, ils appellent les Maserati ou quelque chose comme ça. Eux, c'est comme ils disent, bon, pas besoin de s'habiller de telle façon, pas besoin de manger kosher, pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça. Ils mélangent les hommes et les femmes dans les synagogues, pas grave. Tu vois, c'est un petit peu comme les modernistes, les juifs Ikhwan, tu vois, tendance Ikhwan. Les Ikhwan ont copié sur eux, là, sur cette tendance-là, malgré qu'il y a des Ikhwan aussi extrémistes, comme chez les juifs, donc il y a des extrémistes aussi. Mais bon, c'est juste pour vous dire que tout ce que tu trouves comme secte chez les musulmans, il y en a une copie qui existe de cette secte chez les juifs et chez les chrétiens en général. Parce que beaucoup des sectes qui existent parmi les musulmans ont copié sur les juifs et les chrétiens. Comme les soufis, par exemple. Ils ont copié sur les chrétiens, par exemple. Ça, c'est des exemples comme ça. Et donc, c'est ça. Probablement que chez les juifs, il y a des khawarij aussi. Hein? C'est bien possible que chez les chrétiens aussi. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les chrétiens se sont divisés en 70, les juifs sont en 71, pardon. Les chrétiens se sont divisés en 71 sectes, les juifs en 72 sectes, et cette umma, il a dit, elle va se diviser en 73. Donc, c'est pour dire, les musulmans vont avoir encore plus de sectes même que les juifs et les chrétiens. Et c'est une des raisons pourquoi ils se divisent, les musulmans, c'est parce qu'ils suivent et qu'ils imitent les juifs et les chrétiens dans leur division, tu vois. Et comme le cheikh il le dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue des... Exactement. Eux, ils n'ont pas le même livre et ils ont des livres qui ont été falsifiés et changés. Donc, ils ont des divisions qui sont incommensurables et insurmontables. Tandis que nous, on n'a pas ces conditions-là. On a un seul livre. Il y a un seul prophète. Et le message est clair. Quand on dit un seul prophète, c'est dans le sens que c'est le dernier, pas qu'il n'y en a pas d'autres. Non, on croit à tous les prophètes, mais c'est-à-dire que on suit le message qui a été ramené par le dernier des messagers et des prophètes en particulier. Donc c'est pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, tu n'as rien à voir avec ceux qui se sont divisés dans leur religion et qui sont devenus des sectes. Donc si par exemple il y a des sectes parmi les musulmans, eh bien c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue non seulement des juifs et des chrétiens qui sont devenus des sectes, mais il se désavoue aussi des musulmans qui sont divisés et qui sont devenus des sectes. Et donc le cheikh il dit, et que donc que les gens qui sont parmi les sectes et les groupes d'égarement et de fausseté, parmi les sectes égarées, doivent réfléchir à ça. Réfléchir que même s'ils prétendent appartenir à l'islam et suivre l'islam, alors qu'ils suivent des sectes, hein, et des groupes déviés et divisés, eh bien, ils doivent savoir que la réalité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'eux. Et que l'islam n'a rien à voir avec ces divisions-là. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de division. Une fois, j'ai parlé avec un chrétien libanais. Et il disait, ouais, mais vous avez des chiites, puis vous avez des sunnis. Ça, c'est la seule chose que les chrétiens connaissent de l'islam. Il y en a quand tu leur parles. Et ils savent qu'il y a 5 piliers, hein, de façon vraiment superficielle. Puis ils savent que, il y a 2 branches, c'est-à-dire les sunnites et les chiites. C'est comme ça qu'on leur apprend à l'école. Alors qu'en réalité, comme on sait, Anne, d'après ce qu'ils ont mentionné les proportions là, ils mentionnent que les sunnites sont 90%, puis les chiites sont 10%. Ça, c'est ce qu'ils mentionnent. Et donc, les chrétiens, quand ils savent ça, ils disent, bon, quand on va rencontrer des musulmans, on va leur dire, comment on va faire dans ce cas-là pour savoir quel musulman à quel islam on doit se convertir? Est-ce qu'on doit se convertir à l'islam chiite ou à l'islam sunnite? Hein? Non, mais bon, eux, ils utilisent ça pour essayer de faire une shubha. Hein? Et le chrétien, donc, il m'a demandé ça. Et donc, je lui ai dit, non. Dans l'islam, il n'y a pas de différentes sectes de cette façon-là. L'islam, c'est une seule religion. Les sectes qui se sont séparées ou qui ont dévié de l'islam authentique, c'est ceux qui se sont séparés de la sunna et qui ont contredit la sunna. Donc, ceux qui se sont divisés, qui sont devenus des sectes, c'est les gens de bid'ah. Mais les gens de la sunna, eux, ne se divisent pas. Ils ont toujours été unis. Et ils ont toujours suivi les mêmes croyances et les mêmes pratiques à travers l'histoire de l'islam. Donc ceux qui ont dévié, c'est ceux qui ont rajouté des choses dans l'islam, soit dans la croyance, ou dans les pratiques, ou dans les deux. Et avec le temps, ils sont devenus des sectes. Et c'est pour ça que ces gens-là ne représentent pas la religion musulmane. Donc, comme le cheikh il le dit, il dit ici, dans l'islam, il y a un seul islam. Et dans l'islam original et authentique, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de différentes parties ou différents groupes ou sous-groupes. C'est une religion, une seule et unique religion. Et la Ummah de l'islam n'est qu'une seule et unique Ummah. D'accord ? Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est important de comprendre. S'il y a des sectes ou des divisions, c'est soit parce que les gens ont essayé d'ajouter ou d'enlever et de former la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé ou falsifié ou créé comme secte? Eh bien l'islam en est innocent et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son prophète et il l'a fait se désavouer de ces sectes-là. Donc ensuite il dit وقوله ومن تابع غيره في بعض أموره أي من تابع شخصا آخر ولو في بعض الأمور فإنه يكون من ذلك المتبوع أيا كان في الشيء الذي تابعه فيه. Donc il dit que si quelqu'un suit quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quoi que ce soit, quelque chose, dans certaines de ses affaires autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors celui qui l'a suivi, cette personne, même si c'est dans certaines affaires seulement, même s'il ne l'a pas suivi dans tout, s'il l'a suivi même dans certaines choses, eh bien, il est dans ce cas-là avec cette personne qui l'a suivi, hein, dans la chose dans laquelle il l'a suivi. Et il n'est pas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il a suivi de l'autre personne qui a contredit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si c'est des affaires de la dunya, puis que tu apprends avec un kafir certaines affaires de la dunya qui sont bénéfiques et qui sont vraies, hein, et qui sont pas en relié avec la religion. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu apprends d'un kafir, par exemple, des mathématiques, et que yani, tu apprends 1 plus 1 égale 2, des choses comme ça, ou des formules mathématiques, ou des trucs, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Si tu rentres dans les choses de, qui ont rapport avec les sciences humaines, comme dit le frère, ou les sciences humaines, ou tout ce qui est politique, ça rentre dans la science humaine aussi. Donc ça, c'est là-dedans que tu vas trouver beaucoup de contradictions avec la religion et la croyance islamique, parce que c'est ça, c'est la philosophie, la psychologie, la sociologie. Les sciences politiques, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont mélangées, toutes sortes d'hypothèses, de théories, tu vois que même entre eux, ils sont pas jamais d'accord. Tu vois, et à chaque fois, chaque siècle, il y a une théorie qui est plus à la mode que l'autre. Puis le siècle après, il y en a une autre théorie qui vient écraser l'ancienne et qui vient prendre sa place. Puis le siècle d'après, ils vont, recycler un ancien truc, puis ils vont le ramener. Ouais, ouais. Donc, y a rien de solide, tu vois. C'est pas basé nécessairement sur des choses scientifiques non plus, même s'ils appellent ça des sciences, tu vois. Surtout la philosophie. Trouve-moi deux philosophes qui sont d'accord. Et puis je vais te donner la médaille, parce que eux ils se sont mis d'accord de ne pas être d'accord, tu vois, les philosophes, hein. Exactement. Donc c'est ça, c'est normal, parce que c'est le fruit de l'effort humain, tu vois, pas y avoir de consensus là-dessus, à moins que ce soit quelque chose qui est, comme on dit, on s'est mis d'accord parce que par convention, tu vois. Comme le fait qu'on dit que le chiffre 1 vaut 1. On s'est mis d'accord sur le fait que le chiffre 1 égale 1. Mais si quelqu'un décide que le chiffre 1 égale 10, bon là, il faut qu'on soit d'accord. Et que la lettre A, ben quand tu la lis, ça fait A. Si t'es pas d'accord avec ça, là, on peut pas parler, on peut pas calculer. Ça veut dire qu'il y a plus de vide dans la tombe que de matière. En tout cas, si on rentre dans ça, ouais, c'est ça. Oui, ben oui, c'est des modèles. C'est ça, c'est des modèles pour justifier les calculs qu'ils font, parce que sinon, ça tient pas, tu vois, c'est pas... Ça dépasse l'entendement. Oui, oui, oui. Et moi, j'aime beaucoup étudier les limites de la science, en fait, de voir jusqu'à quel niveau les scientifiques sont allés pour que, à un moment donné, ils disent bon là, on ne sait plus expliquer. Après ça, on ne sait plus comment ça se passe. On comprend pas. Mais tu vois que, par exemple, quand ils disent l'univers, ils disent on peut pas expliquer la matière manquante. Ils disent le ciel, il devrait pas être noir la nuit, parce que à chaque endroit il devrait avoir de la lumière, puisque c'est des étoiles partout. Donc pourquoi il y a du noir? Donc ils disent que ça c'est la matière manquante. Ils savent pas c'est composé de quoi. Le vide de l'espace, oui. Non, mais eux, ils sont tellement... Non, malgré qu'ils savent qu'ils reconnaissent qu'ils ne savent pas certaines choses, ou qu'ils ne savent pas tout. Mais l'arrogance les amène à dire qu'on ne le sait pas aujourd'hui, mais on va le savoir après. C'est ça qu'ils disent comme excuse. Donc, ils disent que vous dites que c'est Dieu parce que vous n'avez pas compris... tandis que nous, on refuse de dire ça, et on préfère dire plus tard, on va le savoir. C'est l'arrogance et l'orgueil. Et ils pensent que parce qu'on croit en Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas se poser de questions, ou qu'on arrête de se poser des questions, alors que non, c'est pas vrai. On peut croire en Dieu et quand même essayer de comprendre l'univers, essayer de comprendre la création d'Allah, puis voir comment elle a été faite. Oui, exactement. Même que les plus grands scientifiques, il y en a beaucoup de grands scientifiques, c'était des croyants. Hein? Des scientifiques, des gens qui se posaient des questions sur comment fonctionnent les choses. Bon, il faut quand on dit croyant, il faut vraiment expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par croyant. Parce que reconnaître l'existence de Dieu, ça fait pas de quelqu'un un croyant. Quelqu'un peut reconnaître l'existence d'un créateur, qu'il y a un maître dans l'univers, que c'est quelqu'un qui a tout créé. Ça ne veut pas dire qu'il croit réellement en Dieu. Parce qu'on sait que pour nous, en tant que musulmans, pour croire en Dieu, c'est pas juste de croire que Dieu existe, mais premièrement, c'est de croire en Ar-Rububiyya, Wal-Uluhiyya, Wal-Asma al-Sifat, hein, et de croire aussi en les messagers. Einstein, je crois pas qu'il croit en des prophètes, je crois pas qu'il croit en des révélations divines, je crois pas qu'il croit en Tawhid al-Uluhiyya. Tu vois, il y en a qui disent oui, Dieu existe, mais on n'a pas besoin de l'adorer. Hein, il a juste créé le monde, comme les déistes. Je sais pas si tu as entendu parler des déistes, les philosophes des Lumières. Hein? Allez, au 18e ou 18e siècle, hein? Avec Descartes, avec Voltaire et tous ces Diderot, ils reconnaissaient l'existence d'un Dieu mais sans attribut, comme les Mu'tazila. Un Dieu qui existe mais sans attribut, qui n'a rien créé, qui ne contrôle rien, c'est-à-dire il n'a pas envoyé de prophète, il n'a pas envoyé de messager, il ne parle pas, il fait rien. La seule chose qu'il a fait, c'est comme si il a parti une machine. Puis après, le reste, ça fonctionne tout seul, la machine, après. Donc ça, c'est les... oui, c'est ça. Reconnaître l'existence de Dieu, c'est dans la fitra. C'est dans la nature. Non, ça, c'est fitri. Ça, c'est quelque chose, il y en a même les hommes qui... Même ils essaient de le nier, ça, ils ne sont pas capables. Parce que c'est dans leur fitra. Et ceux qui le nient, c'est par orgueil et par arrogance. Et ils le nient qu'avec la langue. Mais dans leur cœur, ils y croient. Comme Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Donc, ils l'ont reconnu. Dans leur cœur, ils y croient avec conviction. Mais ils le renient par arrogance, par fierté, hein, et par injustice. Et il y a plein d'autres exemples aussi de ça. Donc c'est pas des vrais athées. C'est, voilà, un vrai athée pur 100% qui croit pas en Dieu du tout, ça n'existe pas. Ça se peut pas. C'est juste quelqu'un qui dans son cœur il reconnaît qu'il y a un créateur, que Dieu existe, que c'est lui le maître, que c'est lui qui doit être adoré seulement, mais dans sa fierté, son arrogance et son orgueil, il refuse de le dire avec la langue, d'admettre son existence. Et même s'il va l'admettre, comme certains, par exemple, oui, je crois qu'il y a une force, oui, il y a quelque chose, mais il refuse de l'adorer et de se prosterner et de lui obéir et de croire en ses messagers et en ses révélations. Donc, ça équivaut à dire qu'il ne croit pas en Dieu du tout, pour de vrai. C'est pas, si quelqu'un dit, bon, je crois en Dieu, mais je crois pas qu'il y a une vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit يؤمنون بالله واليوم الآخر. Si tu ne crois pas en يوم الآخر, tu ne crois pas en Allah. Tu comprends? Donc il ne faut pas juste croire en Dieu. Tu dis je crois que Dieu existe, puis tu ne crois pas en l'au-delà. Si tu ne crois pas en l'au-delà, c'est comme si tu ne crois pas en Allah, parce que Allah t'a ordonné, il t'a révélé qu'il y a un au-delà. Si tu refuses d'y croire, c'est comme si tu refusais de croire en Dieu. La même chose que si tu ne crois pas en ses anges. La même chose. Si tu dis je crois en Allah, mais je ne crois pas en les anges. Et c'est pour ça qu'il y a les 6 piliers de la foi. Et donc, il faut croire en tout ce qu'il y a dans ces piliers-là, et tout ce que ces piliers impliquent, et aussi croire en tout ce qui a été révélé, de qu'est-ce qui fait partie de Al-Ghaib, l'invisible. Si tu dis, par exemple, je crois en Allah, mais je ne crois pas en les djinns, pourtant Allah, il nous a mentionné dans la révélation qu'il y a un monde qui est invisible, qu'on appelle Al-Ghaib, et parmi ce Ghaib, il y a l'existence d'une créature ou d'une création qu'on appelle Al-Jinn, et donc toi tu dis non, je ne crois pas en cette création-là, ça veut dire que tu as nié ce que Allah a révélé, donc par conséquent tu n'es pas croyant, tu n'as pas cru en Allah. Donc croire en Dieu, ce n'est pas juste reconnaître de façon abstraite l'existence d'un être suprême ou d'un être suprême, non. Exactement. Exactement. Tous les mouchriquins de Quraysh, et même les juifs et les chrétiens, et même les hindous, et même des bouddhistes, ils reconnaissent un être suprême. Certains bouddhistes croient en Dieu. Certains bouddhistes, comme ils disent qu'il y a deux catégories de bouddhistes, il y a les bouddhistes qui reconnaissent l'existence d'un dieu, et, ou bien qui vont adorer des statues, ou qui vont se prosterner devant des statues, et des choses comme ça. Et il y en a une autre catégorie de bouddhistes qui ne croient pas en l'existence d'un créateur. Hein, c'est des matérialistes, hein, purs. Donc c'est pour ça, en fait. Hein, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de croire en Dieu. C'est-à-dire que, premièrement, tu reconnais son existence, tu crois que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui seul qui est le maître de toutes choses, et que c'est lui qui contrôle tout dans l'univers, et personne, il n'a pas aucun partenaire ou associé dans ça. Ensuite, tu crois que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que ce qui est adoré en dehors de lui, c'est batil, c'est faux. Puis, que c'est à lui qu'appartient les plus beaux noms et les attributs de perfection, et que on n'a pas le droit de donner à la créature les attributs du créateur, ou au créateur les attributs des créatures, et de faire ressembler Allah à sa création, ou de faire ressembler la création à Allah, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste quelques règles générales par rapport à la foi. Si quelqu'un n'a pas cru en ça, il n'a pas cru en Allah. Puis ensuite, les autres piliers de la foi, de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, et en la prédestination, de qu'est-ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal, et ainsi de suite. Ça fait partie des piliers de la foi. Puis parmi la foi en les livres, il y a la foi en le Coran, et dans le Coran, il y a tout ce qui est mentionné par rapport au ghaib, et aussi de croire en les messagers. Ça implique de croire au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Isa alayhi salam, et tous les autres messagers, et de croire en leur sunnah et en leur révélation. Hein? Donc de croire en qu'est-ce qui a été révélé au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme sunnah, et qu'est-ce qui a été révélé de la parole d'Allah dans le Coran. Et donc tout ça, ça fait partie de ce en quoi on est obligé de croire si on est un mu'min. Celui qui renie quoi que ce soit de ça, il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant. Naam. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit qawluhu fa qawlul qa'il ana min hadha wa hadha minni معناه أن الإنسان من الإنسان بمعنى أنه من نوعه لا من عينه فلا يمكن أن يكون الناس عينا واحدة وإنما الناس شيء واحد في نوع الإنسانية فكقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك أي أنت تشبهني وأنا أشبهك لا أن عين علي هي عين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هذا الكلام مذهب القائلين بوحدة الوجود. Donc le cheikh, il dit, quand il dit par la suite que si quelqu'un dit je suis de celui-là et celui-là est de moi, il dit ça veut dire que il fait partie de la race humaine, comme on dit, il fait partie de la race humaine, et on est donc de la même sorte, donc de la même origine, la même race, hein, humaine. Pas que lui est de moi et que moi est de lui, dans le sens qu'on est la même personne. Hein, non, mais on est de la même sorte, dans le sens qu'on vient de la même origine, on est tous les deux des êtres humains. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, radiyallahu anhu, je suis de toi et tu es de moi, dans le sens que tu me ressembles et je te ressemble. Et non pas que Ali est la même personne que le messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette parole là c'est en réalité la parole de ceux qui croient en wahdatul wujud, c'est-à-dire qui croient que yani Allah est tout et tout est Allah, et que tout est mélangé, tout fait partie de la même chose et tout est un. Donc ça, c'est, il y a pas de doute que ça, c'est une fausse croyance, une croyance de shirk. Il y en a même des soufis, hein. Non seulement ils disent que Allah est partout et dans tout, et que Allah est tout, ça c'est une croyance de shirk, mais ils disent aussi que le messager d'Allah, Muhammad, est partout et dans tout. et dans toutes choses. J'ai entendu cette idée-là de la part des soufis. Ça, ça fait partie du shirk, il n'y a pas de doute. Donc il dit, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ يَقْتَضِي تَبَرُّؤُهُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا مِمَّا يُخَالِفُ مَا جَاءَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفون الكفار في جميع أمورهم الخاصة. Donc le cheikh il dit, quand tu dis que quand Allah dit tu n'as rien à voir avec eux, tu n'es pas d'eux en quoi que ce soit, ça implique qu'ils se désavouent d'eux en toute chose, et c'est-à-dire en toute chose dans laquelle ils sont en train de contredire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. De même que les gens qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contredisent les kuffars dans toutes les choses qu'ils font qui leur est particulier. Donc il dit ensuite, wa qawluhu wa idha kana qad barra Allahu rasulahu صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا أي أن من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به فإنه بريء من هذه الفرق كلها كما برأ الله رسوله منها ومن كان متبعا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منه فلا يجتمع أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون مع غيره أي مع من خالفه. Donc le cheikh il dit que étant donné que Allah a désavoué son messager de toutes leurs affaires, donc celui qui suit le messager d'Allah réellement صلى الله عليه وسلم, alors c'est comme si lui aussi se désavouait et s'était désavoué de ce que suivent les gens qui sont dans les sectes et qui sont déviés. Puisque Allah a désavoué son messager de leurs affaires dans toutes choses, donc si toi tu suis réellement le messager, sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi tu dois te désavouer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désavoué son messager. C'est-à-dire que si tu suis le messager et que tu le prends comme un modèle et comme un guide, et que lui, étant donné qu'il s'est désavoué de toutes ses sectes, sans exception, comme Allah subhanahu wa ta'ala en a désavoué son messager. Donc toi aussi la même chose, puisque tu le suis, tu dois en réalité te désavouer de toutes ses sectes aussi. Il dit, man kana muttabi'an li ahadin min hadhihi al-firaq fa huwa bari'un min ar-rasul. Si quelqu'un suit une d'entre ses sectes, peu importe qu'il soit un khariji, ou un rafidi, ou un qadari, ou un mu'tazili, ou un jahmi, ou un soufi, ou un jabri, ou un ash'ari, ou un maturidi, ou peu importe quelle secte, ikhwani, ou tablighi, peu importe, c'est comme si il était innocent du messager. Et c'est comme si le messager s'était désavoué de lui aussi. Il n'a rien à voir avec le messager, et le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec lui. فَيَكُونُ فَلَا يَجْتَمِعُ أَن تَكُونَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكُونُ مَعَ غَيْرِهِ. C'est-à-dire, ça ne peut pas que tu te réunisses avec, que tu sois réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en même temps tu sois avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire parmi ceux qui le contredisent. Donc par exemple, c'est soit que tu es avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou avec Dhul Khuwaysira. Tu ne peux pas suivre Dhul Khuwaysira puis suivre en même temps le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dhul Khuwaysira, c'est le père des Khawarij. Donc c'est soit que tu es avec un ou avec l'autre. Tu ne peux pas non plus dire je suis avec par exemple avec Ja'ad ibn Dirham et Jahm ibn Safwan, et je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en même temps, parce que ça c'est le fondateur des Jahmiya et ça c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être avec les deux en même temps, soit tu es avec un ou avec l'autre, et plus que tu es avec un, plus que tu contredis l'autre. La même chose, tu peux pas dire je suis avec Hassan al-Banna puis je suis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que si tu suis Hassan al-Banna, tu contredis Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Hassan al-Banna, il avait les bid'ahs des soufis, les bid'ahs des asha'ira, les bid'ahs des khawarij, les bid'ahs, toutes sortes de bid'ahs réunis. La même chose, si tu suis Sayyid Qutb, tu peux pas dire je suis le messager d'Allah, parce que les deux se contredisent. C'est soit que tu suis un ou tu suis l'autre, parce que les uns contredisent les autres. La même chose, tu ne peux pas dire que, par exemple, tu suis Ibn Arabi, puis en même temps tu suis Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu dis je suis Al-Hallaj, et puis tu suis messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire je suis Ibn Sina et je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu suis un ou tu suis l'autre, parce que les uns opposent l'autre. Donc ceux qui sont en réalité en train de suivre les sectes et les gens de bid'ah, eh bien en réalité ils sont en train de contredire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis je suis Amr ibn Ubaid, hein, le Qadiri, celui qui était Mu'tazili, ou Wasil ibn Atta, tu ne peux pas dire je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en même temps, hein, ou bien Ghaylan al-Dimashqi, ou bien quel autre encore parmi les Mubtadi'a. Il y a plein d'exemples. Les bid'a d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, hein, tu dis je suis sur sa voie intermédiaire, je suis la voie des gens de Kalam, et en même temps tu dis je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux pas, hein? Qu'est-ce que tu dis? Muhammad Hassan et compagnie, ou bien Abu Ishaq al-Huwayni, et ces gens-là, tu ne peux pas dire je les suis puis je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Il y a une contradiction entre les deux. Mais c'est ça. C'est comme la même chose, tu dis je suis, si tu suis Abdullah ibn Saba ou al-Khumayni, puis tu dis je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une contradiction. C'est ça, parce qu'ils ne savent pas que Al-Huwayni a contredit les grands ulama dans le manhaj. Le manhaj de Al-Huwayni, c'est le manhaj des takfiriens. Il fait le takfir des dirigeants et des gens qui font des grands péchés. Et il y a une grande réfutation qui a été écrite sur lui par le cheikh Abu Abdullah Ala. Khalid ibn Othman al-Misri. Un livre de 900 pages environ, je pense. Mais je sais pas, est-ce que son qamis il traînait par terre? Donc si son qamis était trop long qu'il traîne par terre, ça c'est haram. Mais pourquoi il met son... La question c'est, s'il met le qamis, pourquoi il le rentre dans ses pantalons? Hein? S'il n'est pas complexé. Parce que si c'est obligatoire de mettre le qamis dans la salat parce que ça couvre ta aura mieux que les pantalons, dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas couvrir ta aura en dehors de la salat aussi? Ça rend les gens complexés, oui. Mais il faut dire la vérité, il y a des musulmans qui sont complexés, même dans les pays musulmans. Mais même dans les pays musulmans, des fois, ils aiment pas les religieux aussi. C'est ça, parce que il y a une époque où je me rappelle, comme dans les années 90, Abu Ishaq al-Huwayni, on le considérait salafi à l'époque, tu vois, parce que moi je me rappelle, mais après, quand plus tard, vers les années comme 2000, là j'ai entendu les hizbiyins qui commençaient à le mentionner, Abu Ishaq. J'ai dit, avant, vous le détestiez, maintenant vous commencez à le défendre. J'ai trouvé ça bizarre. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Parce que j'ai dit, c'est pas normal que des hizbiens commencent à défendre Abu Ishaq. L'imam de la mosquée Sunna m'a demandé, pourquoi vous l'avez fait sortir de la salafia? J'ai dit, j'étais pas au courant qu'on l'avait fait sortir de la salafia, mais sache que personne peut, c'est pas quelqu'un qui a le pouvoir de faire sortir quelqu'un d'autre de la salafia, mais c'est elle-même qui se sort de la salafia en contredisant les principes et les règles des salafs. Mais c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des opinions et des positions qui viennent en contradiction avec les principes des salafs. Comme par exemple, un des principes des salafs, c'est qu'on n'a pas le droit de déclarer un musulman kafir, même s'il a commis des péchés. Lui, il a dit, non, s'il commet des péchés et il les fait à répétition et il persiste à le faire, là, dans ce cas-là, il devient kafir. Alors que tous les savants ont contredit cette idée-là. Ils ont dit, non, même s'il persiste à le faire, il est quand même un musulman, mais on va dire qu'il est un pécheur, un fasiq, naqis al-iman, qu'il a la foi faible. Et tu ne peux pas le dire kafir à cause de ça. Et donc, il a commencé à essayer de se défendre, utiliser des shubuhat. Une fois, il a fait une vidéo où il parle, il dit, « Oh, ils m'ont dit que je fais le takfir de celui qui persiste à faire des péchés. » Donc là, il dit, « Je veux clarifier l'affaire parce que là, tout le monde dit ça. » Et au lieu de revenir sur sa parole puis de se repentir, il s'est enfoncé encore plus. Et il a confirmé l'affaire encore plus. Alors, on a compris que c'est quelqu'un qui suit sa passion. Et donc, il y a même le cheikh, je ne sais pas si tu connais, cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna. Un cheikh, il est dans les 91 et plus, donc peut-être 92. C'est un parmi les mashaykh salafiyin en Égypte en ce moment. Et il a fait justement une préface au livre de cheikh Abu Abdul A'la. Et il a justement mentionné plusieurs points, je pense 8 ou 9 points, parmi les erreurs de manhaj que Abu Ishaq a commis et sur lesquelles il refuse de revenir. Et comment il... je les ai même traduits en français sur mon site Salafi de Montréal. Exact. Parce que ça, c'est la voie des Khawarij. Donc, tu peux pas dire, par exemple, c'est pas nécessaire que tu vas faire contredire chaque fondement des salafs ensemble pour que tu sortes de la salafia. Même si tu as contredit un des fondements de la salafia, un seul, et que sur les autres fondements tu es d'accord, mais un des fondements tu refuses, eh bien ça suffit pour que tu sortes de la sunna, que tu deviennes un mubtadi. C'est pas obligatoire que tu contredises tous les fondements. Tu comprends? C'est-à-dire que tous ces fondements-là, tu es obligé de les accepter et de les suivre. Si tu rejettes un d'entre ces fondements-là, même si tu es correct dans les autres, eh bien, on va dire que tu as dévié. C'est ça. Exactement. C'est parce que si quelqu'un, c'est ça. Exactement. C'est ça. Si quelqu'un, il ne savait pas, il ne connaissait pas ce principe-là, puis il le contredit par ignorance, quand on lui dit, tout de suite, il dit, ah, astaghfirullah, moi je ne savais pas ça, je me repens à Allah et je reviens. Lui, on ne va pas dire qu'il a quitté la salafia. On va dire, non, ça c'est un salafi. Il s'est trompé, là il est revenu de son erreur. Mais si quand quelqu'un, il a de la science, il connaît le principe, mais après il commence à philosopher, il commence à essayer de contredire, et alors qu'il le sait, ça c'est quelqu'un qui est dans l'habitat, quelqu'un qui défend ses passions, qui suit ses passions. C'est ça, c'est pas le simple fait de commettre l'habitat. Ou de commettre l'acte de shirk, ou une parole même, ou une action de kufr. Peut-être que tu l'as fait sans savoir, peut-être que tu ne savais même pas que c'était kufr, ou que c'était shirk, ou que c'était bid'ah. Dans ce cas-là, on ne va pas dire que tu es un mubtadi', ou on ne va pas dire que tu es un mushrik, ou un kafir. Mais, du moment qu'on t'a mentionné les preuves et qu'on t'a expliqué que c'était faux, que c'était contraire à la vérité, que c'était shirk, que c'était kufr, que c'était bid'ah, ou que c'était haram, et toi par la suite tu dis, ah mais c'est pas grave, moi je vais le faire quand même, et, ou bien tu commences à essayer d'argumenter pour défendre cette position là alors que tu sais que c'est faux, alors là dans ce cas là c'est là que la preuve va s'appliquer contre toi, hein? Donc on va continuer inshallah dans qu'est-ce qu'on disait. Le cheikh il dit نعم وقوله وإذا كان قد برأ الله رسوله دكنا لسا أبخيزي وقوله فإن الشخصين المختلفين من كل وجه يعني لو أن شخصين كل واحد له دين وأردت أن تتشبه بأحدهما فهذا يعني أنك خالفت الآخر، فلا يجتمع أن تكون مع الاثنين، فإذا كنت مع واحد فأنت بريء من الآخر، فمخالفتك لأحدهما مخالفة تضاد. أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فقد يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اتفق عليه والافتراق فيما اختلف فيه. Donc le cheikh il dit, si deux personnes suivent deux religions différentes, puis que toi tu veux ressembler à un des deux, eh bien dans ce cas-là, c'est clair que ça veut dire que tu contredis l'autre, parce que les deux suivent une religion différente. Hein? Donc c'est pas possible que tu suives les deux en même temps et que tu sois d'accord à suivre les deux en même temps. Hein? C'est comme parfois des gens, tu dis, j'ai rencontré des gens, un jeune, il est ignorant, il connaît pas la religion musulmane. Alors il dit, je suis chrétien musulman. Pourquoi? Parce que son père est musulman, sa mère est chrétienne. Alors il pense qu'il peut être moitié chrétien, moitié musulman, tu vois. Alors que c'est impossible, puisque si tu es chrétien, tu contredis l'islam, alors tu n'es pas musulman. Et si tu es musulman, tu contredis le christianisme, alors tu n'es pas chrétien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « قُلْ يَا يُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. C'est-à-dire, si oh vous les mécréants, hein, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. J'adore pas ce que vous adorez, ça veut dire j'adore pas vos idoles et je fais pas de shirk, hein, avec vous. Et vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même si vous dites dans vos doigts, vous invoquez Allah et vous priez Allah, et bien votre adoration n'est pas acceptée. Et Allah n'en veut pas de votre adoration parce que vous ne l'adorez pas lui seul. Hein? Donc les ulama, ils ont dit, l'adoration n'est qu'une adoration que lorsqu'elle est faite uniquement pour Allah seul. Et si elle n'est pas faite pour Allah seul, elle n'est pas une adoration. Exactement. Sans partenaire ni intermédiaire. Non, c'est l'ignorance. Donc le cheikh il dit ensuite, si tu suis un, donc ça fait que tu contredis l'autre. C'est comme il y a des gens, il y a la mentalité actuellement qui disent, ah ouais, moi je suis d'accord avec tout le monde, je suis d'accord avec toutes les religions, hein, j'accepte tout, il y a du bon dans tout. Eh ben non, tu peux pas accepter tout, sinon ça veut dire que tu acceptes la contradiction. Tu vas accepter le faux et le vrai en même temps et ça c'est pas possible. Ou bien il y en a d'autres qui veulent une religion sur mesure. C'est-à-dire, ils veulent que la religion soit en accord avec leurs passions et leurs désirs, et ils mettent leurs désirs et leurs passions comme base et fondement pour déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Alors ils disent, bon, moi, je suis d'accord avec, par exemple, je suis d'accord avec l'homosexualité, je cherche une religion qui approuve l'homosexualité. Alors ils vont dire, bon, mais moi, je pense que... Il va dire, bon, moi j'accepte telle religion parce que eux ils acceptent l'homosexualité, mais sinon, si une religion est contre l'homosexualité, moi je suis contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu cherches une religion selon tes passions et tes désirs. Parce que l'attitude de la personne qui recherche la vérité et qui est sincère, c'est qu'elle va dire, peu importe qu'est-ce que la religion enseigne, que ce soit en accord dans le sens que si c'est contre mes désirs, peu importe que mes désirs soient contre cette religion-là ou en accord avec cette religion, je dois, moi, changer ma position pour qu'elle soit en accord avec l'enseignement de la religion de vérité. Parce que si c'est la vérité, même si moi je suis pas d'accord, ou bien que mes passions, mes désirs contredisent ce que cette vérité-là dit, eh bien c'est à moi de me changer, de me corriger pour que qu'est-ce que je crois soit en accord avec la vérité. Parce que sinon, si tu dis, bah, écoutez, moi je veux une religion qui est en accord avec mes passions, imaginez, le voleur, il dit, bah, moi je cherche une religion qui permet le vol, parce que moi j'aime voler, et l'autre, il cherche une religion qui permet, le viol, parce qu'il aime violer les femmes. Puis l'autre, il cherche une religion qui permet de tuer, parce qu'il dit, moi j'aime tuer les gens, donc j'ai une religion qui accepte le crime. Alors, alaykoum salam wa rahmatullah, ça marche pas. Là, tu veux une religion qui accepte la drogue parce qu'il aime se droguer. Donc, il trouve, par exemple, les Rastas qui fument de la marijuana toute la journée. Ils vont dire, bon, ça c'est la bonne religion pour moi parce qu'eux, ils acceptent la drogue. Non, Audubillah. Hein? C'est pas comme ça que quelqu'un doit chercher la religion. Quand quelqu'un cherche la vérité, il doit se soumettre à la vérité et devenir soumis et esclave de cette vérité-là, dans le sens qu'il laisse de côté tout ce qu'il désire et tout ce qu'il aime, et il laisse de côté le shaitan et il accepte, il se tourne entièrement vers la vérité et il suit que la vérité. Dans le sens que, non mais écoute, si c'est quelque chose qui est moubah, comme on dit moubah, si c'est quelque chose qui est moubah, tu as le droit de le faire. Tant que ça ne dépasse pas la limite, hein, dans ce cas-là, tu peux le faire. Si tu aimes, par exemple, cuisiner, tu es un bon cuisinier, dans ce cas-là, vas-y, cuisine. T'aimes la physique et les maths, vas-y, fais de la physique et les maths. Et même si tu l'utilises pour le bien des musulmans, alhamdoulilah, c'est encore mieux. Ou bien quand tu commences à t'exagérer, comme il y a un frère, Allah Mustahan, qui vient ici tous les jours, il prie avec nous, il prie tous les jours, Salat al-Isha, en partie, il vient toujours prier l'Isha ici. Puis quand il est venu pour écouter les douros qu'on fait en arabe de Al-Usul al-Thalatha, parce que lui c'est un arabophone, donc le frère vient pour écouter au dars qu'on met l'audio. Puis les frères, ils viennent, qui sont arabophones, ils viennent, ils écoutent le dars. On écoute le dars ensemble, puis on prend des notes. Hein, comme si le cheikh, il était avec nous. Et bien là, on a écouté le premier dars à l'Usul al-Thalatha. Et le cheikh, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique, il dit « I'alam, rahimakallah, annahu yajib alayna anna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatu Allah, wa ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu din l'islam ibn adillah. » Alors lui, après le dars, il dit « Ah, mais cette définition de la science, c'est pas une définition, c'est une définition superficielle, parce que la vraie science, c'est les mathématiques, et ça, c'est pas une vraie science. » Après, il me dit, j'ai dit quoi, tu veux que prouver avec les mathématiques l'existence d'Allah, l'existence des djinns, et prouver ça mathématiquement? Il me dit oui, parce que ça c'est des vraies preuves, parce que l'adilla, ça doit être des adilla scientifiques. Et j'ai dit, subhanallah. Il me dit, tu vois, tu pries avec quelqu'un tous les jours, tu penses que tu es sur la même voie, puis pourtant, quand il ouvre sa bouche, quand il sort, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Tu vois que lui, il est à l'est et toi, tu es à l'ouest. Parce que moi, je lui ai dit au frère, j'ai dit, écoute, si tu me dis que la science, la vraie science, c'est la science des maths, et que c'est avec ça que tu vas connaître Allah, connaître la religion, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi Allah a envoyé des messagers? Pas besoin de prophètes, pas besoin de livres. Ah ouais? Je veux dire, dans ce cas-là, peut-être que tu vas dire même que certains koufars mathématiciens sont plus forts que les messagers dans la connaissance d'Allah et dans la science. Donc ça, c'est débile. C'est complètement ridicule. Comment quelqu'un peut penser comme ça? Et donc, après, j'ai essayé de lui expliquer que dans l'islam, quand on dit « ilm », ça veut dire automatiquement la science de la charia. « Al-ilm ». إذا أطلق العلماء إذا أطلق كلمة علم فمعناه العلم الشرعي. Si tu dis le terme science, ça implique automatiquement la science de la charia. Toute autre science, tu dois l'associer à son domaine. Par exemple, علم الطب, علم النفس, علم يعني كذا, علم, hein? Tu dois l'associer à son domaine. علم الفيزياء, علم الكيمياء. Hein? Donc tu vas l'associer à son domaine, tandis que quand tu dis science de façon absolue, c'est la religion, automatiquement c'est la charia. Et le cheikh, il a cité comme preuve de ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit al-anbiya warasatul al-ulama warasatul anbiya. Les ulama sont les héritiers des prophètes. وإنهم الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage ni des pièces d'or ni des pièces d'argent, mais ils ont laissé la science. Et donc, il dit, فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. C'est-à-dire, celui qui a pris cet héritage-là, il a pris la plus grande part, la part la plus importante. Et une fois, je pense que c'était Abu Huraira ou Abdullah ibn Abbas, un des deux, quoi que c'était Abu Huraira, il a dit aux gens, il est sorti de la mosquée, il a dit, l'héritage du messager est en train de se distribuer dans la mosquée maintenant. Alors les gens sont rentrés dans la mosquée rapidement pour voir c'était quoi, où est-ce qu'il est l'argent qui est distribué. Alors ils sont sortis, ils ont dit, ya Abu Huraira, on a trouvé seulement des gens qui sont assis en train d'étudier la science. Il a dit, mais c'est ça l'héritage du prophète, tu vois, c'est ça l'héritage du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils pensaient trouver de l'argent qu'ils étaient en train de distribuer, tu vois. Donc c'est pour dire, les vrais héritages, c'est l'héritage de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois souvent comme le verset que les gens citent quand pour montrer l'excellence de la science, il y en a qui utilisent ces versets-là pour essayer de montrer la science de la dunya, hein, les sciences modernes, naturelles. Alors que si tu lis vraiment le verset dans son contexte, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle pas de cette science-là. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, hein? Donc c'est clair qu'ils ne sont pas égaux. Mais c'est quoi le verset, le contexte de ce verset-là? Regardez bien comme il faut. Non, non, tu vas voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde, c'est-à-dire craignant l'au-delà, espérant la miséricorde de son Seigneur, hein, en voulant dire, est-ce qu'il est égal ou celui qui ne le fait pas, hein? Est-ce que celui qui ne fait pas, c'est-à-dire il passe sa nuit à dormir, est-ce que tu penses que celui qui passe ses nuits debout, en dévotion, dans la prière et en prosternation, et qui espère en la miséricorde d'Allah et qui craint l'au-delà, est-ce que lui, il est égal avec celui qui passe sa nuit pour dormir seulement? Hein? Donc, après Allah dit au Muhammad, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est clair que celui qui passe sa nuit en dévotion à Allah et en prosternation et en adoration, il connaît plus Allah. Donc, il le craint plus que celui qui est insouciant et qui ne craint pas Allah. Donc, c'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens, ils prennent le verset en voulant dire, non, ça c'est celui qui connaît les maths, la physique, la chimie, les sciences. Non, ça n'a même pas rapport. Parce qu'il y a des koufars, hein, des juifs, chrétiens, des athées, ils connaissent plus les sciences, les maths, la physique et la biologie et tous ces trucs-là. Ils connaissent tout ça et malgré tout, ils ne craignent pas Allah. Ils obéissent pas à Allah, ils n'adorent pas Allah. Donc, tu vas comparer ça avec la connaissance des messagers et des prophètes. Donc, c'est pour te dire, yani, l'ignorance de certains musulmans, yani, Allah musta'an, comment ils viennent prier, et malgré tout, ils prient, hein, ils viennent faire la salat, mais ils ne savent même pas, yani, les bases de la aqidah. Mais tu sais qu'est-ce qui est grave par la suite par rapport à ce sujet-là? C'est que des fois, c'est des gens comme ça qui deviennent des extrémistes après. C'est des gens qui ne connaissent pas la aqidah, ils ne connaissent pas l'islam comme il faut, mais parce que comment ils argumentent son point là, quand il dit ça? Il dit, regarde les koufars, ils ont commencé à être forts dans la science, et c'est comme ça qu'ils ont eu le dessus sur les musulmans. Donc il dit, maintenant, si les musulmans, nous aussi, on veut revenir à notre position de force et de fierté dans l'histoire, il faut aussi comme maîtriser les sciences et des trucs de ce genre. Donc c'est son idée à lui, là, il pense que c'est ça qui a donné aux musulmans leur force et leur avancement. Ouais, c'est l'ignorance, yani. C'est les grosses compagnies, le Coca-Cola. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est bien possible, yani, Allah musta'an. Ouais, exactement. Et puis c'est pas juste aussi, c'est comme Moussa alayhi salam qui était justement à l'époque de l'Égypte, comme tu dis. C'est là qu'il y avait toute la science et les mathématiciens. Et quand il a dit il y a quelqu'un qui a plus de science que toi, il l'a envoyé suivre Khidr. Et c'est pour dire, il n'a pas dit va voir les mathématiciens. Il n'y a aucun prophète d'Allah qui nous a dit étudier, dans le sens que si vous voulez connaître Allah, étudier par exemple les maths ou les trucs de ce genre, non. Mais ils peuvent nous dire observer la création d'Allah, méditer sur les signes d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous n'avez pas regardé le ciel, est-ce que vous n'avez pas regardé qu'est-ce que Allah a créé, regardez le chameau, hein. أَفَلَمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Tout ça, c'est pour te dire de regarder comment Allah a créé ces choses-là pour que tu réalises la grandeur d'Allah et comment. Mais je lui ai dit, ça, c'est juste pour arriver à être conscient de la rububiyya. Mais la rububiyya doit devenir une preuve pour al-uluhiyya par la suite. C'est-à-dire que tu reconnais que Allah existe, que c'est lui le seul maître, que c'est lui le seul créateur. Mais une fois que tu as reconnu ça, tu dois comprendre que ça implique que Dieu seul doit être adoré et que Allah seul mérite d'être adoré par la suite et qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de partenaire. Comme il n'a pas d'associé et de partenaire dans la création, eh bien, il n'a pas non plus d'associé et de partenaire dans l'adoration aussi. Tu comprends? Puisque c'est lui seul qui a tout créé et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc, ça ne doit pas s'arrêter à la rububiyya seulement. Parce que même les mouchriquines de Quraysh, comme on a dit tout à l'heure, ils reconnaissaient que Allah existe, que c'est lui le seul créateur. Et ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça n'a pas fait d'eux des croyants. Il fallait qu'ils acceptent al-uluhiyya, que Dieu seul mérite d'être adoré. Et qu'ils devaient abandonner et rejeter l'adoration d'autres que Allah et les intermédiaires qu'ils avaient entre eux et Allah. Sinon, ils ne sont pas des croyants. Et c'est ça le défi, c'est ça le conflit qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple. C'était pas les messagers d'Allah sont pas venus dire au peuple croyez en l'existence de Dieu. Tu vas pas même regarde l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu voir Quraysh et son peuple, il a pas dit aux Arabes croyez qu'il y a un Dieu qui existe, croyez en l'existence d'un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Donc si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Donc ils savent que Allah existe, ils savent que Allah est créateur. C'est pas ça le problème qu'ils ont. Le problème c'est qu'ils disent oui, c'est Allah le créateur, mais ils adorent d'autres que Allah. Ils adorent d'autres avec Allah. Et c'est ça le shirk. Hein? Et même, ils disent même pas que ces idoles qu'ils adorent, que c'est elles qui ont créé. Ils disent pas que Allat, wa al-Uzza, wa Manat, wa Hubal, c'est elles qui ont créé le monde. Ils savent que ça, c'est des objets, hein, du bois, de la matière, que c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué avec leurs mains. Ils savent ça. Ils disent pas que cette boîte-là, elle a créé les cieux et la terre. Ils savent que non, elle a rien créé. Mais ils prennent ces choses-là comme représentation de ce qu'ils respectent comme homme pieux ou homme saint. Et ils prétendent que parce que ces hommes-là sont plus vieux, eh ben, ils sont plus proches d'Allah que nous. Et donc, ils peuvent, eux, intercéder auprès d'Allah en notre faveur. C'est ça la base de leur shirk. Hein? Donc ils ont essayé de justifier leur shirk par toutes sortes de shubuhat. Hein? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, hein, le tawhid comme il faut. Et oui, tu lis le livre Kashf al-Shubuhat de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Pff, c'est clair quand tu lis ça. C'est clair, franchement, toutes les shubuhat que les mouchriquins utilisent, eh ben, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Kashf al-Shubuhat, il les détruit une après l'autre. Une après l'autre. Comme ça. Simplement et clairement. Avec les preuves du Coran et de la Sunna. Des fois, les mouchriquins, ils te ramènent une chose de la vérité, puis ils te l'utilisent pour essayer de prouver quelque chose qui est faux. Mais la façon qu'ils te le présentent, ça paraît tellement vrai que toi, tellement logique, tu as l'impression que qu'est-ce qu'ils te disent, c'est la même chose que l'islam. Alors que quand tu observes comme il faut et que tu ramènes les choses comme elles sont à leur place réelle, là tu vois que ils ont mélangé le vrai et le faux ensemble. Exactement. Donc c'est vraiment il faut vraiment faire attention. C'est très très dangereux. Tu sais, des fois le plus dur, c'est pas quand quelqu'un est complètement dans le faux et quand quelqu'un est complètement dans le vrai. Ça, c'est facile à distinguer. Quand quelqu'un il suit le haq clair, ça c'est facile. Et quand quelqu'un suit le batil clair, ça c'est très facile à distinguer. Et c'est pour ça que les ulama, parfois, ils vont mettre en garde, ils vont moins mettre en garde contre celui qui est dans le batil clair que celui qui mélange une partie du batil et une partie du haq ensemble. Donc c'est pour ça, des fois, tu vois, comme le cheikh il dit ici, فَقَدْ يَكُنْ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ. Il dit, فَمُخَالَفَتُكَ لِأَحَدِهِمَا مُخَالِفَةٌ لِلْآخِرِ. Donc si quelqu'un il suit une religion et l'autre il suit une autre, ben, si toi tu le suis dans une chose, eh bien ça implique que tu contredis l'autre. Mais il dit, أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَقَدْ يَكُنُ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ فِي مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ وَالْإِفْتِرَاقُ فِي مَا اخْتُلِفَ فِيهِ. Donc par exemple, je te donne un exemple. Les Mu'tazila, ils ont dit on ne croit pas du tout en les attributs d'Allah. On les renie, on les rejette et on les déforme de leur sens réel. Les Asha'ira sont venus et eux ils ont dit ouais mais nous on accepte sept attributs et on rejette les autres. Les sept qu'on affirme, c'est celles qui sont établies par la raison. Donc on affirme ces sept-là parce que la raison les confirme. Mais les autres attributs qu'on ne peut pas prouver rationnellement, eh bien on les rejette, on les déforme de leur sens réel, puis on leur donne une autre signification. Donc les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils ont plus réfuté les Asha'ira, comme Ibn Taymiyyah par exemple, il a plus réfuté les Asha'ira que les Mu'tazila. Hein? Ou bien parfois il a réfuté les deux. Ou bien il a réfuté tous ensemble, mais en voulant dire qu'ils ont la même erreur que les autres, comme les Asha'ira, les Mu'tazila et les Jahmiya. Les Jahmiya, c'est les plus extrémistes. Ils croient ni en les noms, ni en les attributs d'Allah. Et les Mu'tazila, eux, ils ont dit, on ne croit pas en les noms, mais on croit pas en les attributs, mais on affirme les noms. Ils sont le degré en dessous des Jahmiyyah. Puis après, il y a les Asha'ira qui disent, on affirme les noms et sept attributs, mais on nie les autres. Les ulama ont dit, laquelle est plus proche de la Sunna? C'est les Asha'ira. Parce que ils affirment les noms et sept attributs. Donc c'est mieux d'affirmer sept, c'est mieux que de rien affirmer du tout. Hein? Puis les Mu'tazila, c'est qui est pire entre les Mu'tazila et les Jahmiya? C'est sûr que c'est les Jahmiya. Parce que les Jahmiya, ils affirment rien du tout, ni les noms, ni les attributs. Et les Mu'tazila, ils sont moins pires que les Jahmiya parce qu'ils affirment les noms, mais ils nient les attributs. Et les ulama ont dit, du fait qu'ils affirment les noms, indirectement, ça implique l'affirmation des attributs. Mais puisqu'ils les nient, ils sont dans l'égarement à cause de ça, parce que c'est une bid'a de nier les attributs d'Allah. Et ça amène même au coffre. Il va trouver une ruse. C'est ça. C'est comme en voulant dire que les kuffars, ils vont pas en voulant dire que les gens de bid'a, ils veulent t'appeler au coffre, mais ils peuvent pas te dire directement et clairement qu'ils appellent au coffre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une ruse pour te dire, on croit en Allah, mais on affirme qu'il a pas, on n'affirme pas qu'il a des noms, on n'affirme pas qu'il a des attributs. On croit juste que c'est quelque chose qui existe comme ça. Et que yani, c'est tout. On ne peut rien dire d'autre à propos de Dieu qu'il existe. Parce que si on dit qu'il a des noms et des attributs, ça veut dire qu'on va le décrire avec des attributs qui sont communs aux attributs des créateurs. Et en faisant ça, ça veut dire qu'on fait ressembler le créateur à la créature. Et donc ça implique une forme de shirk. Hein? Donc ils, pour s'éloigner de ça, ils ont nié, ils ont préféré nier, et ils sont tombés dans la négation. Dans la, en fait, dans la négation, c'est en même temps de nier l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le résultat, c'est grave, aussi grave, donc même plus grave encore, parce que Ibn Taymiyyah, il dit le shirk des mushrikins, il est moins grave que la négation des négateurs. Tu vois, si quelqu'un il accepte, il affirme l'existence d'Allah, mais il fait le shirk, hein, c'est moins grave que celui qui nie complètement l'existence d'Allah et qui ne l'affirme pas. Hein. Donc c'est pour ça que les athées sont plus graves que les chrétiens et les juifs, plus égarés que les juifs et les chrétiens. Les athées sont plus égarés que les juifs et les chrétiens. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que qui les ulama ont plus réfuté? Ils ont réfuté les Asha'ira plus et ils les ont considérés plus dangereux que les Mu'tazila et que les Asha'ira. Pourquoi? Parce qu'ils se prétendent défenseurs de la Sunna, hein, contre les Mu'tazila. Et donc ils disent, nous on est les défenseurs de Ahl Sunna wal Jama'a, et ils prétendent même, nous sommes Ahl Sunna wal Jama'a, alors qu'ils déforment les noms et les attributs d'Allah. Ils suivent, ils veulent incorporer dans la Sunna des éléments de ce qui oppose la Sunna. Alors les ulama les ont considérés beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus une source de confusion pour les musulmans en général que les Jahmiyyah et que les Mu'tazila. Et que les. Pardon, oui, c'est ça. Donc, ils sont une source de plus grande confusion. Si tu vois aujourd'hui, par exemple, des Hizbiyyins parmi les Takfiriyyins qui se disent Salafis, parfois, hein, c'est beaucoup plus une source de fitna pour les musulmans du commun que les Soufis, hein, ou bien que les. Je sais pas moi, qui d'autre encore. Que d'autres groupes de bid'a, comme les Shia ou les Rafida, hein, ou bien que les laïcs, par exemple, ou les athées, chrétiens et les juifs. Les ulama, ils ont mis plus en garde contre les gens de bid'a que contre les juifs et les chrétiens. Les hezbines, ils disent, ah, mais pourquoi vous réfutez pas les juifs et les chrétiens, mais vous réfutez les gens de bid'a. Et les gens de bid'a, yani, tout le monde sait que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Mais les gens de bid'a, ils trompent les musulmans plus facilement. Parce que les gens disent, ben, ils disent la ilaha illallah, ils font la salat, ils jeûnent, ils ont l'apparence musulmane. Ils peuvent beaucoup plus mettre quelqu'un en égarement et le tromper qu'un juif ou un chrétien. Si un rabbin, il rentre ici, là, il se met sur le mimbar. Hein? Vous imaginez? Personne ne va l'écouter. Si le prêtre, là, il entre ici, il monte sur le mimbar, commence à parler aux musulmans, à dire toutes sortes d'affaires, personne ne va l'écouter. Mais si un musulman, il rentre avec le qamis, la barbe, hein, et commence à parler, il dit toutes sortes de choses fausses, contraires au Coran et à la Sunna, les gens vont l'écouter parce qu'ils vont dire, ah, mais c'est un musulman. Même si ce qu'il dit est faux. Des fois, les gens, parmi les musulmans, ils vont dans une mosquée pour prier le Jumu'ah, pas parce qu'ils sont d'accord avec le manhaj de l'imam, ou le manhaj de l'administration, ou le responsable de la mosquée. Ils ne savent même pas la plupart du temps c'est quoi le manhaj de l'imam, c'est quoi le manhaj de la mosquée, c'est où est-ce qu'il a étudié cet imam, c'est qui ses shuyukh, c'est de qui il a pris sa science, c'est quoi sa méthodologie. Ça leur passe 2000 pieds par-dessus la tête. La plupart, tout ce qu'ils veulent, c'est faire Jumu'ah. Même s'ils vont faire Jumu'ah derrière un shaitan parmi les hommes, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il a prié Jumu'ah. Allah al-Musta'an. Alors qu'en réalité, le musulman doit choisir, il doit choisir la mosquée où il va prier, surtout dans les pays de Kufr, en relation avec. C'est quoi la méthodologie de cette mosquée? C'est quoi l'aqidah de cette mosquée? C'est quoi le manhaj de cette mosquée? C'est quoi l'aqidah de cet imam? C'est où est-ce qu'il a étudié cet imam? C'est qui les shuyukh de qui il a appris sa religion? C'est quoi les livres qu'il lit, hein, cet imam? C'est qui les shuyukh sur lesquels il se réfère pour établir sa religion? Chaque musulman devrait se poser cette question. Non, non, attends, je m'excuse. C'est juste pour clarifier. Si tu poses cette question, pour que tu saches que ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas nécessairement sur la sunna à 100%, que la prière derrière lui ne sera pas valable. Ou que Yanni, ce n'est pas permis de façon absolue de prier derrière lui. Sauf que, même si les ulama d'Ahl Sunna ont dit, de façon générale, la position d'Ahl Sunna al-Jama'a, c'est que la prière derrière le mubtadi', elle est permise. Et elle est valable. Sauf que, s'il fait un shirk akbar, un kuf akbar, son shirk a atteint un degré qui est mukaffir. Mukaffir. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit, parce que c'est une forme de shirk majeur. Quelqu'un qui adore les morts et qui prie les morts ouvertement, ça, tu ne peux pas prier derrière lui, même s'il dit qu'il est musulman. Mais par contre, quelqu'un qui a une bid'a comme un Ash'ari ou un Ikhwani, chien, ça dépend, parce qu'il y a des chiens, comme tu sais, ils adorent Ali ou Hassan et Hussein, ils prient les morts. Ça, c'est du shirk akbar. Donc s'il est dans le chien Rafidi, tu ne pries pas derrière lui. Mais si c'est un Ikhwani, un Tabliri, un Soufi, mais Soufi dans le sens qu'il ne tombe pas dans Wahdatul Wujud ou des choses comme ça, naam, donc dans ce cas-là, oui, tu peux prier derrière lui, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu as le choix, hein, on va dire que tu as le choix, tu vas aller à cette mosquée-là, ça c'est une mosquée, l'imam est sur la sunna, et ça te prend 5 minutes pour aller. Et l'autre mosquée, cet imam est sur la bid'a. C'est un hizbi ou un soufi ou un mubtadi' de façon générale. Et que ça te prend aussi 5 minutes pour y aller. Lequel des deux tu vas préférer? Tu devrais préférer d'aller prier derrière l'imam qui est sur la sunna. Parce que tu as le choix entre les deux. Les deux sont à distance égale. Et même si, par exemple, la mosquée de l'imam qui est sur la sunna, elle est plus loin, mais que ce n'est pas un problème pour toi d'y aller, tu vas prier là-bas, c'est mieux que de prier derrière un mubtadi', ou d'augmenter le nombre des gens qui prient derrière le mubtadi'. Hein? Tandis que si tu passes devant la mosquée des gens de bid'a, puis que c'est l'heure de la salat, puis que tu as peur de manquer la salat, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer, tu fais ta salat derrière l'imam, puis après tu rentres chez toi. Tu ne restes pas à t'asseoir avec l'imam, puis avec les responsables, puis écouter qu'est-ce qu'ils appellent à leur bid'a, commencer à discuter avec eux, débattre avec eux, parler avec eux. Non. Tu rentres chez toi. Hein? Tu ne restes pas à socialiser avec eux, là. Comme malheureusement le font beaucoup d'entre eux, ces gens-là. Les gens ignorants, là. Et puis à cause de ça, petit à petit, tu les vois au début, ils sont pour la sunna, puis après un certain temps, ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils ont prêté l'oreille aux shubuhat des gens de bid'a, puis après un certain temps, ils sont devenus comme eux. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est l'attitude de la société envers les musulmans. Si tu es dans une société où tu te sens accepté puis à l'aise, tu vas plus facilement t'intégrer, puis à cause de ça, par rapport à l'attitude des gens, tu risques peut-être plus facilement de t'écarter des musulmans ou de la religion. Et quand tu es dans un pays justement qui a une attitude vraiment négative envers l'islam et les musulmans, eh bien tu sais que tu es rejeté, donc tu vas t'attacher plus à ta religion. Ça, c'est des choses qui sont palpables. Mais par contre, il y a un point là-dedans qui est dangereux et qu'il faut faire attention, c'est que quand tu te sens trop à l'aise, c'est un risque que petit à petit tu commences à t'écarter de la religion. Ouais, c'est comme, je sais pas, vous avez entendu parler de l'expérience qu'on a faite avec les grenouilles. On a mis une grenouille c'est-à-dire on a pris une grenouille, puis on a mis sur un chaudron avec de l'eau bouillante. Et on l'a laissé tomber, la grenouille, sur l'eau bouillante. Et aussitôt qu'elle a touché l'eau, elle a sauté. Elle a sauté en dehors pour pas se brûler. Alors, elle a compris que ça brûle. Tu vois, elle n'est pas restée dans l'eau. Mais on a pris une autre grenouille, on l'a mis dans l'eau, froide, normale. Puis on a mis l'eau sur le feu, mais on l'a fait chauffer à température graduellement. Hein. On a chauffé l'eau de façon graduelle, lentement. La grenouille, elle est restée dans l'eau et s'est pas aperçue que la température a monté, monté, monté jusqu'à ce que, à un moment donné, elle est morte dans l'eau parce que elle n'a pas senti la température monter jusqu'à ce que l'eau devienne bouillante et puis elle est morte dans l'eau. Donc, des fois, c'est ça qui arrive dans la société où tu vois qu'il y a une claire opposition. Tu es plus sur tes aguets. Tu fais attention. Tu te maîtrises plus. Tandis que dans une société où tu te sens très à l'aise, tu réalises pas les dangers, tu t'intègres. Hein, en fait, tu te désintègres, en fait. Non, mais c'est pour dire que eux, ils ont fait un plan pour dire que graduellement, tu vas t'assimiler. C'est-à-dire, si toi, tu t'assimiles pas, tes enfants vont être assimilés, ou si c'est pas tes enfants, ça va être tes petits-enfants. Mais à un certain moment donné, une partie de ta descendance, elle va plus avoir aucun lien avec l'islam ni avec tes origines culturelles. Donc c'est pour dire que ça, c'est le danger de vivre chez les kuffars. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le musulman, il doit pas vivre chez les kuffars. Il a dit أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. Je me désavoue de tout musulman qui s'établit ou qui s'installe au plein milieu des mushrikin. من جامع المشركين وسكن معهم فهو منهم. Celui qui s'est mélangé, ça c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est mélangé avec le mushrikin et qui habite avec eux, et alors il est un des leurs. Dans le sens qu'à l'époque, les gens ils faisaient des feux devant leurs tentes. Donc tu dois être à une distance tellement éloignée d'eux que tu ne vois pas son feu. Et lui, il ne voit pas ton feu. Donc, c'est pour dire, on doit être loin. Et pourquoi? Pour que la vérité et le faux soient de plus en plus distingués. Et on va voir, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça dans les cours qui vont suivre. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup lu, mais ce n'est pas grave parce que, inshallah, on rentre maintenant dans les passages où Cheikh al-Islam, donc c'est des longs passages là, plusieurs pages. Ouais. Donc il y a presque pas d'explication dans ces textes là. Donc on va rentrer là-dedans la semaine prochaine, inchallah. On devient aussi individualiste. Individualiste parce que chacun pense à soi puis tu vois que beaucoup de musulmans par exemple, ils pensent pas par rapport à une communauté, par rapport à une jama'a ou par rapport à la jama'a ou par rapport à disons la umma, ok, comme si tu vois un musulman, il voit un autre musulman dans la rue, mais parce qu'ils sont pas de la même ville ou la même origine ou même culture ou même couleur, même langue, mais ils vont pas penser à se dire assalamu alaykum, tu vois. Parce que c'est pas comme s'ils sentent pas qu'il y a un lien avec. Tu vas voir par exemple quelqu'un dans la rue qui passe. Bon, si la personne, comme par exemple tu le vois avec le kamis, la barbe et tout, moi il y a plein de gens que je vois dans la rue, ils me passent à côté de moi, je peux même pas deviner que ce sont des musulmans. Quand ils me voient, ils me disent assalamu alaikum. Ouais, des fois même je passe dans un bureau ou dans une compagnie ou quelque part, un endroit, même des trucs de service public, hein, service public. Et des fois la personne qui est au kiosque là ou au comptoir, c'est un musulman, mais tu pouvais même pas deviner que c'est un musulman. Mais quand tu arrives là-bas, eux ils veulent que tu saches qu'il est musulman, alors ils te disent assalamu alaikum. Et donc wa alaikum salam wa rahmatullah, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, non, c'est ça. Après, c'est, moi, je connaissais un frère, je vais te dire, j'ai un frère que je connaissais au New Jersey. Il travaillait dans, pour l'hôtel Hilton. Il travaillait à l'hôtel Hilton. Et il n'était pas à la réception ou comme répondre aux gens qui viennent pour louer une chambre dans l'hôtel ou servir à la... Non. Lui, il était concierge, comme un genre de concierge. Il s'occupait des machines qui ont rapport avec la climatisation, puis aussi la réparation lorsque quelque chose est brisé. Donc lui, il a une uniforme, ok? Et il travaillait, donc quand il arrivait au travail, il arrivait au travail avec son kamis, hein, et son chapeau, et tout le monde le connaît là-bas, ils savent que c'est un musulman. Donc quand il rentre au travail avec son kamis et son chapeau et tout, il rentre dans le vestiaire, il enlève son kamis, il met ça dans son casier, il enlève son chapeau, il met sa chemise, son pantalon, ses trucs, et là il fait ses tournées, puis il travaille toute la nuit, arrivé le matin, enlève sa chemise, enlève ses pantalons et tout, met son kamis et son chapeau, et il ressort, il s'en va à la maison. Tranquille, il s'est habillé pour le travail, quand il a travaillé, et en dehors du travail, il remet ses vêtements. Oui, mais ici, c'est comme... Les gens, non, ils ne vont pas faire ça, Einstein. Bon, on va s'arrêter pour maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.